la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM. « Je lire » et j'ai même tout juste fini. Cookie Muller, traversé en eau claire dans une piscine peinte en noir. Traduit de l'anglais des États-Unis par Romaric Vinet Kammerer. Cookie Muller est une égérie des années 70-80 à New York. Une égérie de l'underground, pas que à New York, d'ailleurs un peu partout aux États-Unis. Et c'est surtout une comédienne-performeuse qu'on voit dans pas mal de films de John Waters. Elle est absolument délirante dans sa vie, dans ses rencontres. Elle meurt très tôt, à 40 ans à peine, du sida en 1989. Elle a écrit sur sa vie, elle a écrit plein de fragments, à différentes époques, en différents endroits des États-Unis. En voici un, par exemple. 8 Ashbury, San Francisco, 1967. Un tremblement de terre m'a fait dégringoler du matelas et m'a réveillé en même temps que le reste de San Francisco. Rien de bien surprenant quand on pense à la faille de San Andreas. La ville est parsemée de maisons de guingois qui témoignent des secousses passées. Celle-ci était d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter. Et il était à peine 10 heures du matin. Faudrait quand même voir à pas déconner. Trop tôt pour se lever, mais j'ai décidé qu'il était hors de question que je partage une minute de plus le lit de ce mec qui m'avait pourtant bien plu la veille. On avait fauché 2 T-bones dans les rayons d'un Safeway pour les cuisiner et s'empiffrer au grand dégoût de mes végétariens de coloc. Après les steaks, on s'était sifflé un cubit de gros rouge de Napa et Sonoma et on avait pris du LSD. Sauf que maintenant, il transpirait tout ce qu'il pouvait dans le lit et tachait mon seul et unique drap en gaspillant le précieux acide qui suintait par tous ses pores. En gros, il était incapable de tenir l'alcool ou la dope. Ça me rendait tellement folle que le mieux était que je foute le camp. Je suis allé dans la salle de bain, sur la pointe des pieds, histoire de ne pas réveiller les 11 personnes avec qui je vivais. Mes colocs étaient répartis dans 5 chambres à coucher. 5 en comptant la véranda qui communiquait avec la cuisine, en surplomb d'une cour en béton lugubre. On partageait cette cour avec un autre immeuble dans lequel habitait Janis Joplin. Certains matins, je la voyais récurer la vaisselle dans sa cuisine. Mais parfois, on papotait à travers l'abysse bétonnée, comme 2 femmes au foyer. J'ai mis du fard à paupières, un réflexe qui datait de l'époque où je me maquillais à la truelle et me crêpais les cheveux. Plus personne ne se maquillait dans Hate. Éventuellement, une fleur dans les cheveux, voire un troisième œil sur le front, mais certainement pas du fard. Puis, je suis sorti dans Hate Street pour prendre la température. La première chose que j'ai vue, ça a été un bus scolaire, peint en noir sur lequel les mots « Hollywood Production », un L manqué à Hollywood, avaient été barbouillés en lettres d'or, probablement par un attardé mental. Une espèce de grande andouille était assise sur le marchepied. Je lui ai demandé une cigarette pour lancer la conversation. J'étais curieuse. « Pas de cigarette », il m'a dit, « mais pourquoi tu grimperais pas une minute fumer un joint avec nous ?» Je l'ai suivi et me suis assise au milieu d'un petit coussin à motif cachemire, de matelas nus et de bougies. L'intérieur était peint en bleu ciel avec des éclats de rouge. 5 ou 6 filles s'y prélassaient. Elles devaient avoir mon âge, mais elles avaient l'air plus jeunes. Peut-être à cause de leur regard vide ou de leur babillage de gonzesse. Toujours était-il qu'elles avaient l'allure de nénettes assommantes déguisées en hippies. On aurait dit des canards en train de cancaner devant leurs grains de maïs. Tout de suite, je me suis senti supérieur. Il y avait un truc qui manquait ici, quelques synapses. On sentait une puissance plutôt faiblarde du côté des connexions cérébrales. Après avoir fumé notre joint en papotant, l'une des filles m'a lancé « Tu veux venir avec nous ? On se fait la côte en bus du nord au sud. » Tout le monde a trouvé l'idée super. Moi, je trouvais ça un peu rapide. Ça faisait à peine 3 minutes qu'on se connaissait. Mais elles étaient du genre à être passées directement du sein maternel à la paix dans le monde et à l'amour libre, écœurante d'enthousiasme. J'ai essayé de m'imaginer en train de me faire la côte du nord au sud avec eux. Mon sang n'a fait qu'un tour. « Je ne pense pas que ça va être possible », je lui ai dit. « J'ai un appart ici avec 11 autres personnes, donc j'ai déjà de quoi faire, tu vois. Et d'ailleurs, comment ça se passe avec ce bus? Je veux dire, vous êtes combien? Pour l'instant, on est 8. 6 filles et 2 gars. Mais attends que Charlie revienne des courses avant de décider. Il est vraiment délirant. Là, il est parti nous acheter des oranges, a-t-elle précisé, en m'indiquant un magasin de fruits. J'ai attendu un moment, puis décidé de prendre mes clics et mes claques, non sans les avoir remerciés pour le joint, et de m'en aller en quête d'un peu de nouveauté. Ce n'est que des années plus tard, en lisant « La famille », que je me suis souvenu de ce bus. Il était décrit dans le livre exactement comme dans mon souvenir. Ses filles, c'était Squeaky Fromme, Susan Atkins, Mary Brenner. J'avais loupé Charlie Manson de 5 petites minutes. De retour dans la rue, j'ai remarqué un attroupement de femmes. Ça m'a semblé un peu louche, on était encore loin de l'époque où les filles se feraient un devoir d'exclure les mecs de leur conversation. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'au milieu, une blonde était en train de chanter les louanges de Jimi Hendrix, avec qui elle avait baisé la veille. Aucun intérêt, j'avais baisé avec lui l'avant-veille. J'ai passé mon chemin. Direction Golden Gate Park. Comme d'habitude, au-dessus de la colline aux hippies, le ciel était noir de frisbees, de cerfs-volants et de mouettes. Par centaines, les chiens de tous ces chevelus aboyaient et grimpaient sur les gens allongés dans l'herbe. L'air était saturé d'effluves de marijuana, d'huile de patchouli, d'encens au jasmin et l'eucalyptus. Les noirs jouaient des congas et de la flûte, les blancs de l'harmonica et de la guitare. Aussi bondé que Coney Island un 4 juillet. La colline aux hippies, c'était comme ça 7 jours sur 7. Je suis tombé sur quelques amis et me suis assise avec eux pour boire un coup de rouge. Aux environs de midi, j'ai fait un détour par chez moi, au 1826 Page Street. Une séance d'encapsulage de LSD était en cours. Le genre de sauterie qui ne pouvait avoir lieu que chez un dealer d'acide. L'objectif était de remplir des capsules en gélatine de poudre de LSD. Comme le LSD pénétrait la peau, tout le monde était défoncé. Des tours se sont organisés. Quand quelqu'un était trop stone pour continuer, un autre prenait sa place. Kirk, l'un de mes colocs, a lâché l'affaire. Et je l'ai remplacé devant un beau monticule de poudre blanche. Après avoir rempli 300 capsules, j'ai ressenti la montée caractéristique. Très vite, je n'en ai plus rien eu à faire des capsules et de toute façon, mes doigts ne faisaient plus ce que je leur demandais. Quelqu'un a pris ma place, je suis ressorti. J'ai descendu Page Street, la parallèle de 8, où hippies et dealers s'alignaient sur le trottoir pour essayer de fourguer toutes les substances nécessaires à la défonce. Défoncé, je l'étais suffisamment, et 8th Street était trop bondé pour moi. Je suis donc resté dans Page Street et j'ai marché vers l'église catholique, où je savais que je pourrais être un peu tranquille. L'endroit était désert. Mis à part, une vieille femme sur un banc qui ne faisait pas attention à moi. Pâques n'était pas loin, et l'hôtel resplendissait de 1000 feux. Tout était calme. Je n'ai pas été élevé dans la foi catholique, mais les confessionnaux m'ont toujours fasciné. Il y avait un isoloir de part et d'autre du compartiment réservé aux prêtres. J'ai jeté un coup d'œil à ce dernier. C'était celui qui avait la plus fière allure avec son fauteuil en velours et ses décorations d'or et de pourpre sur le dossier. Le tout baigné d'une lumière bleutée. Sous LSD, c'était d'un réconfort absolu. Un endroit idéal pour s'asseoir un moment, carrément divin. J'entrais et refermais la porte. Je planais tellement que même si j'avais été catholique, m'asseoir là ne m'aurait pas semblé étrange le moins du monde. Sauf qu'une minute plus tard, la porte s'est ouverte. Un instant, j'ai imaginé que c'était le prêtre. Loupé. C'était un mec bizarre. Peut-être le concierge ou quelqu'un de ce genre, venu me dire de déguerpir. Encore loupé. Le mec est tombé à genoux, dans l'espace minuscule, ses lunettes couvertes de buée, et il s'est mis à transpirer. « Laisse-moi te brouter le minou », a-t-il susurré. « S'il te plaît, laisse-moi te brouter le minou. » Waouh, non, mais quel pervers! C'était franchement dégueulasse. Qui pourrait imaginer baiser sous LSD dans un confessionnal? Je me suis senti un peu comme une tranche de mou, tout sauf sexy. Et d'abord, d'où il débarquait? Il n'était pas dans l'église quand j'y suis entré. Je lui ai donc répondu un truc du genre « Non, mon fils, mais tu es pardonné, va en paix. » Et j'ai fait un signe de croix. Il n'a pas bougé. Puis soudain, il est passé à l'acte. Dans un sursaut, je l'ai escaladé et me suis précipité vers la sortie, courant entre les rangées de bancs pour retrouver la lumière aveuglante du soleil. Un imposant camion plateau approchait avec ampli, guitare, batterie, une bande de hippies et le Grateful Dead. Ils se sont arrêtés et m'ont tendu la main pour me faire monter. Nous avons pris la direction de Saint-Quentin pour donner un concert gratuit aux prisonniers. Sur place, rien à signaler. La musique était d'enfer et les prisonniers ont adoré. À mon retour à la maison, tout le monde était en train de sniffer de l'héro pour redescendre de l'acide. J'en ai pris un peu, moi aussi, et me suis allongé un moment. Débarque Patrick, un copain que je n'avais pas vu depuis un bail. Il m'a réveillé pour me proposer d'aller rendre visite à son nouveau gourou, Anton LaVey. À l'époque, LaVey était le plus grand sataniste et adorateur du diable d'Amérique. Plutôt séduisant, alors je l'ai suivi. On s'est d'abord arrêté chez sa sœur pour emprunter sa voiture. À première vue, elle recevait un groupe d'Amérindiens à dîner. Sauf qu'en fait, ce n'était pas un dîner du tout, c'était une authentique cérémonie du Peyote. Son mari, un Sioux pure race, en mâchonnait quelques boutons. Ils en bouffaient tous. Ils nous en ont offert, on a goûté, c'était écœurant. Les Indiens nous ont précisé qu'il fallait qu'on revienne le lendemain pour échanger et boire nos urines, histoire d'avoir une nouvelle montée. C'était l'une des étapes des 3 jours que dure la cérémonie. « C'est ça, comptez là-dessus », je leur ai balancé. Ils se foutaient de moi ou quoi ? Boire la pisse de ces gros Indiens ridés ? De toute façon, c'était quoi cette cérémonie du Peyote, assis là, sur des chaises en plastique, dans un préfabriqué, en t-shirt synthétique à fleurs sous les néons ? Leur cérémonie, ils n'étaient pas plutôt censés la faire au milieu de la nature, dans les plaines, vêtus de peau de bison, sous la voûte étoilée ? Leurs ancêtres devaient se retourner dans leur tombe. Quand on est arrivé chez Anton LaVey, une incroyable maison victorienne peinte en noir du sol au plafond, tuyauterie et moulure comprises, Patrick m'a demandé de m'asseoir dans le salon et d'attendre un moment. La pièce ressemblait au décor d'un film tiré de La chute de la maison Usher de Poe. LaVey a fait son entrée en tunique de velours étonnamment cordial et humain. Il avait apporté une sorte de breuvage qu'il m'a tendu. Patrick le suivait, un sac à la main. LaVey lui a fait un signe de la tête et a quitté la pièce. « Maintenant, Cookie, on va s'amuser, » m'a dit Patrick. « Direction le mont Tamalpais. On va aller invoquer un des suppôts de Belzébuth. Qu'est-ce que t'en dis ?»« Ça me va. En route. » J'étais convaincu que LaVey était un charlatan subventionné par des gogos comme Patrick. Et pourtant, je ne pouvais ignorer la sensation bizarre que j'avais ressentie à l'intérieur de la maison. Pendant qu'on traversait le Golden Gate, Patrick m'a annoncé qu'il avait en personne célébré une messe noire qui avait abouti à la grève du San Francisco Chronicle. J'en ai conclu qu'il était barge. Le sommet du mont Tamalpais était plongé dans l'obscurité la plus complète. C'était la nouvelle lune et les arbres, les rochers, même mes propres pieds étaient à peine visibles. On aurait dit que des esprits avaient pris le contrôle, que tout vibrait et changeait de forme. Savoir qu'on était entouré de sépultures sacrées y était certainement pour quelque chose. Patrick a ouvert son sac et en a sorti un talisman en jaspe rouge, un bocal rempli de sang, un couteau à manche sombre, un sac d'herbe, un sabot de chèvre et un livre noir. Avec le talon, il a tracé au sol une étoile à 5 branches dans un cercle d'environ 3 mètres. En observant la scène, j'ai commencé à me dire que Patrick était peut-être dangereux. J'ai lu assez de bouquins sur les rites sataniques pour me rendre compte quand quelqu'un commence à se prendre trop au sérieux. Des nuages couvraient peu à peu le fin croissant de lune. La nuit est alors devenue si sombre que la crête montagneuse a disparu et que je ne distinguais plus le sol sous mes pieds. Patrick m'a demandé de me placer au centre du cercle. J'y serais en sécurité, l'endroit était protégé. Je me suis dit que si c'était effectivement le cas, pourquoi lui ne m'y accompagnait pas ? Mais bon, j'y suis quand même allé. Et Patrick s'est mis à réciter des passages de son livre. Au moment même où je commençais à me détendre en me disant que tout ça, c'était vraiment des foutaises, j'ai entendu au loin quelque chose en train de foncer droit sur nous. Des pas et des cris stridents, mi-humains, mi-animaux. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Peut-être un gros volatile blessé ? Qu'est-ce qui a seulement 2 pattes dans le règne animal ? Au bruit, cette chose avait 2 pattes, pas 4. J'ai tenté d'identifier le son, mais la peur a pris le dessus. Je me suis mis à trembler et mon estomac a fait un tour sur lui-même. Je sentais tout mon sang se glacer. De la tête aux pieds, mes poils se sont hérissés et se sont mis à onduler comme du blé dans le vent. j'ai découvert pour la première fois la sensation que fait un cheveu qui se dresse sur la tête. J'ai jeté un œil vers Patrick, qui n'y était évidemment pour rien. On aurait dit qu'on l'avait éviscéré. J'imagine qu'il ne s'attendait pas plus que moi à un résultat aussi concluant. Si c'était un test de courage, j'avais perdu. Si c'était un rituel de sacrifice humain avec moi pour victime, j'avais gagné, parce que je n'ai pas demandé mon reste. Quiconque, avec un tant soit peu de bon sens, aurait pris ses jambes à son cou. Comme Bip Bip dans le dessin animé, j'ai détalé, laissant Patrick dans un nuage de poussière. De ma vie entière, jamais je n'ai couru aussi vite. J'ai d'ailleurs certainement dû croiser le suppôt de Belzébuth. Je me suis précipité dans la voiture, ai attrapé les clés cachées sous le tapis de sol et ai descendu en trombe la route à flanc de montagne en faisant crisser les pneus à chaque virage et hurler le moteur en direction du Golden Gate. Quand j'ai enfin vu les lumières du pont, j'ai cru que la peur altérait mes perceptions. Les pylônes semblaient se dissoudre, les maisons se désagréger sur l'autre rive. La route gonflait et retombait brutalement comme la houle dans la tempête. J'ai eu envie de hurler sur les passants, ils ressemblaient à des zombies. Je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que quelqu'un ou quelque chose était tapis à l'arrière. Arrivé à la maison, j'ai sauté hors de la voiture et couru à l'intérieur comme une possédée en terrorisant tout le monde. Pour la plupart, ils étaient tous sous THC ou STP. Ils se sont calmés, je me suis calmé. J'ai pris un bain bien chaud et me suis relaxé. Un peu plus tard, on a décidé de prendre la voiture de Patrick pour aller à Berkeley voir Jim Morrison qui jouait quelque part en ville. On voulait s'y débarrasser du LSD passé par erreur à la machine à laver. Suzanne l'avait planqué dans le linge sale la veille. Marc ne s'en était pas rendu compte et avait lancé une lessive avec tout le matos dedans et une dose de cheer. Il y en avait pour 400 dollars. Bref, toute la fournée de LSD était parfumée à la lessive cheer et au blanchissant blue cheer. L'idée était de distribuer gratuitement, en partant du principe que les gens ne se soucieraient pas des effets secondaires du détergent. Comme d'habitude, Jim Morrison a été génial. Tout comme le LSD, mis à part les légères crampes d'estomac qui l'accompagnaient. On en a même fait passer sur scène un petit tas poisseux que Jim a avalé avec plaisir. Après le concert, on est rentré à la maison, fumé de l'opium, en laissant Cathy et Eve se diriger vers les coulisses pour essayer de se taper Jim. Pendant qu'on fumait, en écoutant KMPX, la meilleure radio à l'époque, on est tombé sur une chanson qu'on ne connaissait pas, un truc génial, différent de tout ce qu'on avait entendu jusque-là. Comme on n'avait pas le téléphone, à 3h du matin, j'ai proposé de sortir appeler KMPX d'une cabine pour obtenir le nom et le titre du musicien. Après que j'ai eu le DJ en ligne et appris que le morceau était tiré de Night Tripper, le nouvel album de Dr. June, un noir aux cheveux courts s'est approché et s'est posté devant la cabine. J'ai pensé qu'il voulait passer un coup de fil, mais en fait non, c'est moi qui l'attendais. « T'aimes Stokely Carmichael ?» m'a-t-il demandé. « Ça va, mais pour tout dire, je m'en fous un peu », je lui ai répondu, pas tout à fait sûr de la pertinence de la question. « T'aurais envie de le rencontrer ?»« Là, tout de suite, non. Tu trouves pas qu'il se fait un peu tard ? Il doit dormir. » Mais il a sorti un flingue d'un bouquin d'Iceberg Slim. J'ai jeté un œil aux alentours pour trouver de l'aide. Personne. « Suis-moi, on va aller faire sa connaissance », a-t-il dit. Il m'a emmené vers sa Lincoln et m'y a fait monter. On n'a jamais rencontré Stokely Carmichael. Dommage, vu qu'à la place, je me suis fait violer. Même pas bien, d'ailleurs. Et par-dessus le marché, il était aussi demeuré que les jeunettes du bus de Manson. Mais il m'a quand même filé un cadeau, pêché dans son immense boîte à gants. Une boîte à musique. Le genre avec une ballerine en tutu rose. D'une voix innocente, je lui ai demandé de me ramener dans mon quartier en lui proposant de venir chez moi. Je savais que dans Haight, il y aurait du monde et que je pourrais sauter de la voiture à un feu rouge, par exemple. Je lui ai raconté que j'avais de la moquette, du sol au plafond, l'air conditionné, une énorme télé couleur et de l'héroïne qui l'attendait. Quand on est arrivé, j'ai vu quelques hippies passer et j'ai ouvert brutalement la portière. Je me suis agrippé à la boîte à musique, jeté hors de la voiture en marche. « Ce mec m'a violé !» j'ai hurlé. Ils ont bondi sur la voiture et en ont sorti le gars. Depuis peu, un groupe de maintien de l'ordre s'était constitué dans Haight. Ils en étaient. Des hippies qui faisaient respecter la loi eux-mêmes pour protéger leurs femmes de situations de ce genre. Le gars n'a pas été passé à tabac, les hippies ne faisaient pas ce genre de truc. Ils se sont contentés de lui donner une bonne grosse dose de LSD et de lui confisquer son flingue. Quand je suis rentré, à nouveau un peu secoué, Tout le monde en était à un mix de coke et de crystal meth. Ils se sont énervés un brin quand je leur ai raconté l'histoire du viol. Kirk m'a demandé pourquoi c'était toujours à moi qu'arrivaient les trucs les plus fun. Ils m'ont offert de la cocaïne et de la meth et on s'est dirigé lentement vers l'aube en parlant d'esthétique, de philosophie orientale, du continent mu, de l'Atlantide et de l'imminente apocalypse. On a enregistré la conversation sans se rendre compte qu'on répétait 5 ou 6 fois les mêmes arguments. Quand on a repassé la bande le lendemain, ça nous a semblé idiot et répétitif. Mais on était déjà demain et il était grand temps pour moi de retourner dans Hayes, m'éclater encore un peu. C'est l'un des chapitres du livre de Cookie Muller, Traversé en eau claire dans une piscine peinte en noir, publié juste après sa mort en 1990 et ici traduit en français, depuis l'anglais des États-Unis, par Romaric, Vinet, Kammerer, notamment disponible dans une version poche chez 1018.
They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. Dig me tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got
Hey
now. Hey now.
Hey now, mama, yeah.
If you got love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my Easy Life Rub or put some of my Boss Fix Jam in your breakfast. Try a little bit of Head now. Call me Dr. John, known as a night tripper. A satchel of gris in my hand. Then it tripping up, back down the bayou. You know I'm the last of the best. I'm known as a gris man. Sell it. Water, water if your neighbors give you trouble, put your business in the street. Seal of Jupiter, my whole card, it just won't be beat. Try my dragon's blood, my drawn powder, and my sacred sand. There's a little black cat oil if your woman got another man. Some goofy dust, eat like powder, Boss Fix powder, knows you're eating out the palm of your hand. Devil shoes string and all that same. Put her on your woman's feet and see if she don't know that one and bury your Here now, boy.